Bon, alors jusqu'ici, tous les deux, on a surtout parlé de ce qu'on a fait. Alors je voudrais, avant de parler de la crise finale, revenir sur ce qu'ont fait les autres. Il y a quelqu'un qui a fait trois articles très, très importants, qui s'appelle Giglio, qui est professeur émérite à Aix, et qui a fait un premier chapitre qui s'appelle « La représentation arabo-musulmane des premières fractures religieuses et politiques ». C'est le chapitre 11, page 639. Et dans ce chapitre, il montre comment les grandes écoles musulmanes sont nées plutôt pour des questions de pouvoir politique. Les grandes écoles religieuses de droit sont nées plutôt à propos de rapports entre l'État et l'individu au point de vue de la morale religieuse, plutôt que sur des discussions très théologiques, sauf une ou deux. Donc ça, c'est un chapitre qu'il était seul presque en France à pouvoir faire, parce que vraiment, il est très savant dans ce domaine. Ensuite, un autre chapitre important, le 19, pratique, rituel communautaire et naissance du soufisme. C'est malheureusement, comme le chapitre de Robin, un chapitre où nous avons dû couper les deux tiers du chapitre, parce que on nous avait envoyé trois fois la longueur. Et j'ai demandé à Grill, tellement ça m'avait passionné ce qu'il avait fait, d'en faire un livre, et j'espère qu'il va faire un livre. Et au fond, il est parti de la religion telle qu'elle est prêchée dans le Coran, et comment elle s'est appliquée peu à peu, comment on a été à la mosquée, comment on a été enterré, comment le mariage s'est fait, etc. Et il prend tous les aspects pratiques de la vie religieuse et montre comment un islam vécu au jour le jour s'est construit. Et ce chapitre est très, très important parce que, à mon avis, il n'existait pas dans les autres ouvrages. Et à la fin, il a traité de l'émergence du soufisme. C'est un petit peu quelque chose d'autre, mais je lui ai demandé de le faire parce qu'il était capable de le faire. Et c'est très intéressant aussi comment on passe d'un simple ascétisme à une école soufie, tout à fait avec des confréries séparées les unes des autres, etc. Ensuite aussi, le chapitre d'après, qui est fait par une professeure espagnole de l'Université de Florence, Lidia Bettini, est un chapitre qui, à mon avis, est nouveau. L'islam a couvert toute cette grande région, mais la langue arabe aussi s'est répandue. Et pourquoi est-ce que la Syrie et l'Égypte sont devenues complètement arabophones? Pourquoi l'Iran n'est pas devenu arabophone, tout en restant musulman? Pourquoi est-ce que les Berbères ont continué à parler berbère, mais ils ont écrit arabe? Et elle a réfléchi là-dessus, et ce chapitre est très neuf. À mon avis, il n'avait pas été écrit. Elle a eu beaucoup de peine et elle pense, je pense qu'elle va en faire un livre aussi plus tard. Donc là, c'est une direction nouvelle. Ensuite, vous avez trois chapitres qui concernent la littérature, qui sont faits par Katia Zakaria de l'Université de Lyon 2. Le premier, c'est la genèse et évolution de la prose littéraire, c'est-à-dire les traités. Les Arabes ont écrit beaucoup de traités sur beaucoup de sujets, et des traités politiques, des traités sur l'âme, des traités, etc. Donc toute cette prose, elle l'étudie. Et il y a deux autres chapitres sur des aspects plus secondaires. Le chapitre 22 s'appelle « Entre la taverne et la cour ». Les poètes de l'amour, de la nuit et du vin. Alors, évidemment, ça, c'est un truc que les islamistes refusent. Mais il y a eu quand même une époque. Par exemple, c'est très intéressant de voir que la description des belles femmes à l'époque omeyyade, dans les poèmes omeyyades, les belles femmes, elles sont si grosses qu'elles peuvent presque pas bouger. Elles ont des cuisses qui se touchent, etc. Et dans quelques dessins qu'on a de cette époque, elles sont vraiment énormes. Pourquoi ? Parce qu'on sortait de l'époque bédouine où les gens mouraient de faim, et tout à coup, on est venu le haut de la société, on a pu manger beaucoup, et donc on était une belle femme quand on prouvait qu'on mangeait beaucoup. Et au passé, à l'époque abbasside, les belles femmes, ce sont celles qui ressemblent à des jeunes esclaves hommes. Et plus elles sont minces. Et là, vous apercevez qu'en fait, ces belles femmes des poètes sont souvent des beaux jeunes hommes. Et il y a une forte homosexualité latente dans ces poèmes. Et un goût du vin très, très... Et au fond, il y a la femme qui est à la maison, qui nous intéresse guère. Et puis, il y a la taverne ou la cour où on rencontre des jeunes chanteuses, des jeunes danseuses, ou des jeunes chanteurs, des jeunes danseurs. Et on boit beaucoup. Les chansons est quelqu'un de très bien vu. Et puis, le troisième chapitre, Madame Zakaria, c'est la poésie solennelle. C'est-à-dire, il existait à l'époque... de la Jahiliya avant Mohammed, des joutes oratoires, on devait dire le plus grand bien de sa tribu et le plus grand mal des tribus adverses. Donc il y avait l'art de la louange et l'art de la satire. Eh bien ça, ça va se continuer et elle en parle. Ensuite, il y a un chapitre de Giliot, le second chapitre de Giliot, qui est très important aussi, qui s'appelle « Une culture nouvelle fondée sur des héritages anciens, le débat contemporain sur l'islam des origines ». Il reprend tout ce qu'ont dit les savants orientalistes depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui pour expliquer l'islam. Alors ceux qui disent que c'est un mythe absolu, ceux qui disent que c'est une dérive chrétienne qui a été mal comprise, et parmi les dérives chrétiennes, ça peut être une dérive monophysite ou une dérive nestorienne, ou ceux qui disent que c'est une dérive juive qui a été mal comprise, etc. Et il fait l'étude de tout ce qui concerne les travaux sur l'islam, les premiers siècles de l'islam. Ça aussi, ça a été fait, mais ça a été moins bien fait que ce qu'il a fait. Et le troisième chapitre qu'il a fait... c'est la transmission du message mohammedien. Il montre que les juristes ont essayé toujours de garder intact le message mohammedien. Et je me rappelle d'un philosophe de l'Université du Caire qui me disait que les islamistes étaient de plus en plus nostalgiques parce que chaque génération perdait une partie. Et donc, on avait l'impression de ne plus rien avoir. Et que d'autres disaient, si, il faut recréer, à partir de l'intelligence que Dieu nous a donnée, re-réfléchir en islam. Donc un islam de mémoire ou un islam de réflexion. Et il parle, c'est dans ce chapitre qu'il traite de l'histoire, parce que l'histoire musulmane se sépare très peu du hadith à cette époque. Se séparera beaucoup plus du hadith après. Bon, après les autres chapitres, un chapitre qui est fait par... Hélène Bellosta, malheureusement, qui est morte récemment, sur la science et la médecine, elle-même, c'est une scientifique, et sur les sciences arabes et sur la médecine arabe. C'est connu. Un chapitre que j'ai fait sur l'art musulman, ça existe partout. Et puis, un chapitre sur les villes, et avec deux, Van Stevel donne une description des villes arabes. Moi, j'en donne une un peu différente. Donc, vous pouvez comparer. Et puis, l'importance des voyages, un chapitre fait par Jean-Claude Garcin, le dernier chapitre, très important, l'importance de l'errance, du voyage et la représentation de l'espace chez les musulmans. On termine sur une crise qui s'annonce à partir du 9e siècle et qui devient très grave au 10e siècle. Avant tout parce que les villes sont devenues trop énormes. Bagdad, gigantesque, pas idée. Bon, on a des comptes de l'époque qui sont complètement farfelus. Les gens qui écrivent à l'époque qui disent qu'il y a 20 000 bains à Bagdad, donc comme il y a 20 personnes qui se baignent dans chaque bain, il y a 4 ou 5 millions de personnes, etc. Bon, mais on ne peut pas compter dessus. Mais Là, c'est sûr que c'est une ville gigantesque et qui a besoin de se nourrir. Et le fait que de très grandes villes se développent, Basra, Bagdad, et le Caire, Foustat, le Caire, fait qu'on a besoin de blé. Et ça va être destructeur, parce que toutes les petites villes du sud de la, du nord de la Syrie, la Jezire, du nord de l'Irak, ou de la Syrie intérieure, qui avaient de magnifiques oasis autour, enfin de magnifiques vergers autour, où on faisait un peu de blé, un peu de fruits, un peu de légumineuses, et puis des fibres, etc. Toutes ces villes vont être prises en main par des gens qui, pour faire de l'argent, vont tout raser et faire uniquement du blé. Et parce que ce blé s'achète. Et cette monoculture du blé, dans des pays où il ne pleut pas beaucoup, ça ruine. Et en quelques années, les rendements diminuent. Donc on en met de plus en plus. Et on n'arrive pas à nourrir. Et on s'aperçoit qu'avant tout, il y a des émeutes urbaines au Caire et à Bagdad dues au prix de la nourriture. C'est un peu comme à Rome, où il fallait la nonne absolument, ou à Constantinople, il fallait la nonne pour nourrir les gens. Eh bien là, la grande faiblesse de ces villes, c'est qu'on demande tellement. Et du coup, les paysans qui sont surchargés se réfugient en ville où ils perdent leur identité, on ne peut pas les retrouver. Et donc, c'est de moins en moins bien cultivé. Et ça, c'est la cause de la grande crise qui fait que, bon, on ne peut pas vous en parler, parce que de toute façon, c'est le tome d'après, celui de Garcin, qui fait que le XIe siècle, avant les croisades, est un siècle où les paysans et surtout les nomades envahissent les territoires cultivés et envahissent les villes, détruisent tout. Et c'est un siècle d'affaiblissement qui explique la facilité avec laquelle les croisés pourront mettre la main sur certaines régions. D'autre part, cet affaiblissement fait qu'on recourt aux hommes forts. Ces hommes forts sont soit des Kurdes, soit des Turcs. Et ça change complètement. Ce sont des généraux, des gens qui ont toujours vécu dans l'armée. Et la première chose qu'ils font, ils construisent une citadelle au milieu de la ville. Et désormais, la ville va être comme cloué par une citadelle au centre, qui est toujours à la même place, au Caire aujourd'hui, ou à Damas aujourd'hui, pas changé de place. Et la ville qui était un peu gyrovague avant est bloquée par cette citadelle, source du pouvoir à la fois militaire et politique, et là où on prend les impôts. Et c'est cette fragilité qu'on essaye de faire apparaître à la fin. Donc là, Pierre a quelque chose à vous dire.
Oui, parce que ça, c'est la vision de Thierry. Bon, la mienne est à la fois assez semblable, parce qu'au fond, l'évolution des villes avec la création de citadelles du pouvoir, on la retrouve, par exemple, en Al-Andalus à l'époque, ou à Fès, par exemple, aux époques ultérieures, peut-être avec un certain décalage par rapport à l'Orient. Mais les causes même de cette crise, d'abord, la crise apparaît, enfin, n'est évidente que plus tard en Occident. Chute du califat de Cordoue, reconquête de la Sicile, crise politique en Sicile, reconquête de la Sicile, puis crise quand même avec les Ilaliens au Maghreb. Donc elle est décalée par rapport à l'Orient. Elle présente pas mal de caractères qui sont peut-être les mêmes, mais le problème des causes est beaucoup moins facile à saisir. On n'a pas Cordoue, qui est une très grande ville apparemment, pas de la dimension de Bagdad, mais c'est Ibn Aoukal qui dit elle est la moitié de Bagdad. Enfin, je ne sais plus quel est le terme qu'il emploie. C'est une très très grande ville. On n'a pas l'impression que Cordoue ne soit plus nourri par ses campagnes. Mais bon, les sources, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire pauvres. On n'a pas l'impression qu'il y a les mêmes problèmes et la même évolution. Il y a un effondrement. C'est au moment même où Cordoue, on parle toujours des routes de l'or, etc., ben c'est au moment où le califat de Cordoue domine ces routes de l'or, contrôle tout le Maroc, Sijil Massa, l'arrivée de l'or venant du Sahara et venant d'Afrique noire, que le califat s'effondre. Alors, on a l'impression qu'on est au sommet d'une capacité économique et une société qui, au fond, ne semble pas poser trop de problèmes, qui a un effondrement, qui a une très grave crise, qui est plus violente, mais dont les causes apparaissent de façon beaucoup moins évidente. Fait revenir un peu à la difficulté de... Autant je suis convaincu qu'il y a de grands synchronismes, des évolutions parallèles et tout à fait comparables d'un bout à l'autre du monde musulman, et que l'Andalous et le Maghreb connaissent une évolution qui est tout à fait comparable. Mais pour comprendre ce qui se produit, les faits, les mécanismes, on n'est pas tout à fait sur la même... on n'a pas les mêmes possibilités. Et pourtant, par exemple, pour l'archéologie, elle a été très développée pour l'Espagne, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres régions. Et on a de la peine à y voir clair. On est un peu obligé d'en rester à une histoire un petit peu événementielle en ce qui concerne la crise en Occident.
Alors, dernière remarque, si vous avez vu les nouvelles Clio sur le monde byzantin, vous verrez qu'elles sont très différentes. Et quand j'ai lu les deux nouvelles Clio sur le monde byzantin, surtout celles sur la même époque, le tome 2, je me suis dit, mais c'est tout à fait différent. Et j'ai essayé de réfléchir, et en fait, on n'a pas le même genre de source. Et au fond, nous, historiens du 20e au 21e siècle, on écrit l'histoire que les sources nous permettent d'écrire, et ce qui fait que les historiens du même pays qui ont passé la même à grec et qui fonctionnent bon avec le grec et d'autres avec l'arabe, n'écrivent pas du tout la même histoire. Ça m'a fait réfléchir. Ensuite, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce qu'on n'a pas assez développé? L'aspect militaire de la conquête. Ça, il y a des gens qui ont écrit, mais on n'a pas... Ces troupes qu'on décrit comme assez peu organisées, il n'y a pas de hiérarchie, on ne sait même pas exactement quelles sont les armes qu'elles ont remporté ces victoires gigantesques. Pour le moment, ça, c'est pas. Je crois qu'il y a des thèses à faire, mais il faut aussi qu'on trouve des documents, qu'on fouille, qu'on trouve des restes de bataille, comme on a trouvé en Espagne. Mais pour le moment, on n'en sait rien. De même, on n'a pas apporté l'histoire de la musique parce qu'on n'a pas de place. Le problème des conversions n'a pas été bien traité, parce que, comme ça. Voilà, ça, c'est les plus gros défauts que j'ai trouvés en relisant.